Chapitre 34. Feu dans la plaine. Solario dansait autour d'un feu. Tous jetaient dans les hautes flammes des jonquilles, des mimosas et toutes les autres fleurs jaunes qu'ils avaient pu cueillir. Pépa avait prétendu qu'ainsi, toute trace jaune serait définitivement éliminée. La plupart des enfants pensaient réellement que quand les pétales de jonquilles ou les boules de mimosa se consumaient, les flammes devenaient plus jaunes. Solario, tout comme Agnel, n'en était pas convaincu, mais il laissait faire. La petite troupe de la forêt était tellement joyeuse. Ce feu au milieu de la plaine, c'était un feu de joie, le plus grand et le plus haut possible. Ils avaient ramassé le bois et l'avaient empilé en bûcher depuis des jours en prévision de ce moment. La dernière nuit. Leur dernière nuit dans la forêt. La veille, Solario et les enfants du château avaient endormi à jamais le cœur du soleil de fer. Plus aucun sang jaune empoisonné ne s'en échappait. Agnel et les enfants du tipi avaient puisé de l'eau du lac inférieur, l'avaient goûtée, sans ressentir aucune douleur au ventre. Les entrailles des oiseaux qu'ils avaient capturées ne contenaient plus aucune trace de maladie. C'était fini. Ils avaient rempli leur mission. Le soleil de fer dormirait pour toujours et la nature reprendrait le dessus. Dans quelques mois, lors du birthday, puis pendant la trêve, jusqu'à la prochaine grande battue, des animaux sains naîtraient, grandiraient et le cycle des saisons recommencerait. Tous les enfants du tipi avaient longuement applaudi Solario. Tous les enfants du château avaient longuement applaudi Agnel. Puis tous s'étaient applaudis et s'étaient jetés dans les bras les uns des autres. Ils avaient ajouté des bûches et encore des bûches pour que le feu monte encore plus haut, pour qu'on l'aperçoive de Paris. Ils avaient choisi le lieu exprès, au milieu de la plaine, sans aucun arbre autour. Au milieu d'un ancien hippodrome, avait expliqué Solario, son 268e mot nouveau. Un endroit où, avant, couraient des chevaux. Enfin, le festin pouvait commencer. Les enfants du tipi avaient préparé des brochettes de champignons, des morilles, précisa Solario, à faire griller au feu. Les enfants du château avaient fait bouillir des soupes de pissenlit, d'ortie et de primevère. Personne au tipi n'en avait jamais mangé. Tout le monde, par contre, raffolait des branches de groseilles rouges et blanches, des framboises, des érelles. Des litres d'eau parfumée à la menthe ou aux fraises des bois coulaient à flots. « On rentrera ensemble !» promettaient les enfants. Enfants du tipi et enfants du château, tous mélangés. « On se promènera ainsi dans les rues de Paris et ils seront obligés de nous rejoindre !»« Plus rien ne sera jamais comme avant » jurait-il. Désormais, ils ne formaient qu'une seule et même tribu. Augénor, Akan, les membres du conseil, Mordelia, la future reine ou le futur roi, tous seraient bien obligés de se rendre à l'évidence. On s'amusait plus, tous réunis, et on avait tant à s'apprendre. Alors que les enfants terminaient le dessert et se lançaient dans un concours d'imitation d'oiseaux, Agnel était imbattable pour mimer les échassiers, mais Suzette rivalisait pour jacasser à elle seule comme une nichée d'oie. Une grande silhouette traversa les herbes hautes et sèches de la plaine, et s'approcha du feu. Louponero. Suzette était alors en train d'imiter un canard en colère protégeant son territoire, et les enfants, riant aux éclats, remarquèrent à peine sa présence. Louponero portait dans ses mains un panier contenant des plantes de toutes sortes. Laissant les autres continuer de s'amuser, Solario et Agnel s'approchèrent de l'enfant sauvage.
« Tu es revenu ?» « Approche, viens manger. »«
Pour vous, » fit simplement Louponero en leur tendant son panier. Il semblait presque timide, sans son arc et ses flèches. Au final, il n'était pas plus grand qu'eux, mais son corps était incroyablement musclé, et sa peau couverte de multiples petites cicatrices.
« Ce sont des plantes qui vous seront utiles, » précisa Louponero.
« Certaines aident à guérir, d'autres calment la faim. » D'autres aident à dormir. Certaines, plus dangereuses, aident à rêver.
Merci, fit Agnel.
Approche. Louponero hésita.
Merci à vous, Le sang jaune a disparu de la forêt.
C'est normal, répondit Solario. Ce sang jaune, c'est nous qui l'avons apporté, non? C'était à nous de réparer.
Agnelle échangea un bref regard avec le garçon sauvage, et il eut l'impression que tous les deux pensaient la même chose. Les animaux avaient commencé à être malades avant même que le soleil de fer ne tombe du ciel et que le sang jaune ne s'en échappe. S'ils avaient réussi à stopper l'épidémie, ils n'en avaient pas trouvé la véritable origine. Tant que ce mystère ne serait pas résolu, la menace d'une nouvelle catastrophe planerait. Solario, tout à sa fierté d'avoir rempli sa mission, ne paraissait pas vraiment préoccupé, pas pour l'instant du moins. D'un geste amical, il invita Lupo Nero à s'asseoir et à partager un verre de menthe. Devant le feu, des filles du tipi et du château dansaient ensemble alors que des garçons, Clark et Pépin, les accompagnaient en frappant sur des troncs creux. D'autres discutaient, parlaient d'échanger leurs chambres. Braza, le savant, rêvait de dormir au troisième étage du tipi pour découvrir Paris, alors que Suzette la pipelette se voyait déjà veiller toute la nuit à papoter dans le dortoir des enfants soldats au milieu des statues grecques. Gulo Gulo se promettait de visiter la cantine des Sept Cheminées et de goûter les lollipops de Nora.
« Tu m'apprendras ce que tu connais sur la forêt ?» demanda Agnelle à Lupo Nero.
L'enfant sauvage sourit. « Je t'ai beaucoup observé, crois-moi. Je pense que tu en connais presque autant que moi sur les oiseaux.
Moi, je ne parle pas leur langage. »
Lupo Nero trempa ses lèvres dans le verre de menthe.
« Je t'apprendrai. »
« Et toi ?» Il s'adressait à Solario.
« Je t'ai vu parler aux étoiles, comme si tu savais qui habite sur elles. »«
Non, je ne sais pas, » répondit le savant. « Personne ne sait, mais peut-être pourrais-je t'expliquer certaines choses que tu as observées et que tu pourras m'expliquer certaines choses que je suis incapable d'observer. Tiens, Lupo, par exemple, les abeilles. »
Et ils restèrent ainsi des heures à côté du feu, à parler des abeilles et des fourmis, des étoiles et de l'eau, des nuages et de la pluie. Lorsque Solario évoqua les enseignements de Marie-Lune, qui leur avait appris les bases des principales sciences, Lupo alla jusqu'à se confier. Il avait été élevé par son père, seul, dans la forêt. Il s'en souvenait avec précision. Un matin, son père, qui toussait de plus en plus et ne parvenait presque plus à marcher, lui avait dit adieu. Il était parti nager jusqu'au plus profond du lac supérieur. Lupo ne l'avait jamais revu, même s'il avait nagé pendant des heures chaque jour dans le lac pour le retrouver. Lupo ignorait quel âge il avait alors, mais il était certain d'avoir au moins 8 ans, peut-être davantage. Agnelle et Solario en conclurent que le père de Lupo était sans doute le dernier adulte à être resté en vie, bien après Marie-Lune. Ça expliquait pourquoi Lupo avait pu survivre seul, pourquoi il savait si bien parler, pourquoi il connaissait ce que la majorité des enfants ignoraient. Les sujets de conversation s'enchaînèrent. Paris, le nuage pollué, les filles. Lupo était très intrigué par ce dernier sujet. Presque tous les enfants étaient partis se coucher dans le camp à quelques dizaines de mètres du feu, sous le seul petit bosquet d'arbres de la plaine. Solario finit par bâiller.
« Viens te coucher avec nous, Lupo. Tu pourras nous accompagner jusqu'à Paris demain. »
Lupo Nero se contenta de vider un dernier verre de plantes infusées.
« Non, je vais retourner dans mon arbre. C'est vous qui reviendrez me rendre visite. Ici, mon papa m'a toujours dit de me méfier de ceux de la ville. »
Il jeta quelques dernières poignées d'herbe de son panier dans le feu. Cela provoqua immédiatement un nuage de fumée, épais, d'une odeur très agréable. Agnelle et Solario toussèrent. Quand leur toux cessa et que le nuage se dispersa, Lupo Nero avait disparu. Ils se regardèrent, étonnés. Le bûcher ardent et les arbres devenaient flous.
« Je crois qu'on ferait bien d'aller se coucher, nous aussi. »
Agnelle volait. Il survolait la forêt. D'un brusque coup d'aile, il décida de plonger vers le lac. Il descendit à une vitesse vertigineuse, jusqu'à raser la surface de l'eau. Il repéra quelques poissons qui nageaient à moins d'1 mètre en profondeur, mais décida de les épargner pour remonter plus vite encore.
Un nouveau coup d'aile. Il survolait maintenant le fleuve, le château, l'île aux cygnes, le tipi. Il monta en une seconde jusqu'à la flèche de la tour, n'ayant même pas l'impression de s'élever. C'était elle, au contraire, qui s'enfonçait dans la terre. Mais non, il planait tout en haut. Il s'amusa encore à traverser quelques nuages, un premier, un deuxième, un troisième. Il pouvait les crever autant qu'il le voulait. Il se refermait dès qu'il était passé, comme une blessure qui se soignerait par magie sans même laisser de cicatrices. Il visait un quatrième nuage quand soudain, il sentit son corps s'embraser. Le nuage était bouillant. Un nuage de gaz. Ses ailes s'enflammèrent d'un coup, se réduisirent en de minuscules cendres de plumes, même ses yeux commençaient à fondre. Agnelle se réveilla en sursaut, en sueur, la peau brûlante. Un instant, il fut rassuré, ce n'était qu'un cauchemar. Un cauchemar? Pourquoi alors sa peau était-elle si chaude? Pourquoi l'air était-il autant suffocant? Il tourna les yeux vers le bûcher, à quelques dizaines de mètres de leur camp, et se leva d'un bond. La plaine était en feu. Le vent s'était levé pendant qu'il dormait. Des braises avaient dû s'envoler et enflammer l'herbe sèche. Inexorablement, à une vitesse irréelle, le vent poussait l'incendie vers eux.
« Au feu ! Au feu !»
Les enfants se réveillèrent en catastrophe, les yeux hébétés, comprirent.
« Fuyez ! Fuyez ! Ne ramassez aucune affaire ! Fuyez !»
Le feu formait une immense ligne de flammes. Il était impossible de les contourner. Ils ne pouvaient que s'enfuir devant elles, en espérant courir plus vite que le vent qui soufflait les flammes dans leur direction. Solario secouait les derniers enfants encore endormis ou qui ne réalisaient pas encore l'imminence du danger.
« Vite ! Vite !»
Alors que les premiers enfants s'enfuyaient en hurlant, Agnelle calcula rapidement la vitesse de déplacement du feu. Il progressait au moins deux fois plus vite qu'eux. Et ils ne possédaient que quelques dizaines de mètres d'avance. Il leur serait impossible d'atteindre la lisière de la plaine avant d'être rejoints par le brasier. Et il n'existait aucun abri. Tant pis, ils devaient tout de même tenter leur chance. Sprinter, droit devant. Tous les enfants se mirent à courir. Mais les herbes du champ, sèches et coupantes, montaient plus haut que leur taille et les ralentissaient. À chaque enjambée, plusieurs enfants paniqués manquaient de tomber. Certains trébuchaient, se relevaient et repartaient affolés. Les flammes derrière eux avaient déjà comblé presque la moitié de la distance qui les séparait, et le bout de la plaine était encore épouvantablement loin. Tous sentaient dans leur dos la morsure du brasier ardent. Agnelle et Solario se retrouvèrent côte à côte à écarter les herbes, ruisselant de sueur et de peur. Soudain, quelques mètres devant eux, ils virent Lupo Nero. L'enfant sauvage les attendait, immobile, jambes écartées. Il tenait une branche enflammée à la main.
« Sauve-toi, Lupo ! Sauve-toi avec nous !»
cria Solario. Lupo Nero ne bougea pas. Il observait, le visage grave, les enfants qui couraient vers lui. Des rongeurs et des insectes pullulaient entre ses pieds. Alors, lentement, Lupo Nero baissa sa torche vers les hautes herbes qui l'entouraient.
« Non !»
hurla Agnelle. « Que faisait leur nouvel ami ?» se demanda terrifié l'enfant du tipi. « Pourquoi Lupo portait-il une branche enflammée ? Cherchait-il à leur couper tout tissu en déclenchant un autre feu devant eux ? Voulait-il les encercler dans une ceinture de flammes ? Pour les condamner à une mort certaine ?«
Non !»
hurla à son tour Solario. Lupo Nero était un enfant comme eux, voulait se persuader l'élève du château. Lupo ne pouvait pas les avoir trahis. Avoir attendu qu'ils dorment tous pour déclencher l'incendie dans le champ et les empêcher de s'enfuir maintenant en les bloquant, en allumant un second rideau de flammes devant eux, alors que celle que le vent attisait dans leur dos les rattraperait dans quelques secondes. Lupo Nero était-il un fou dangereux, comme les légendes du tipi l'avaient si longtemps décrit? Un fou dangereux qui allait périr brûlé lui aussi? Les premiers enfants, Brasa et Pépin, parvenaient à quelques mètres de l'enfant sauvage. Peut-être l'un d'eux arriverait-il à l'empêcher de commettre son geste insensé, à lui arracher sa torche? Peut-être avait-il mal compris les intentions de Lupo, qu'il voulait juste les éclairer?
Lupo Nero, les yeux vides, hypnotisé par le brasier derrière eux, baissa encore son bras et, sans la moindre hésitation, sans le moindre tremblement, enflamma les herbes les plus proches de lui. Puis, comme si cela ne suffisait pas à l'horreur, comme pour être certain qu'aucun enfant ne pourrait passer, il se déplaça à une vitesse prodigieuse, latéralement, pour laisser derrière lui une traînée de feu qui déjà s'élevait pour former une ligne ardente infranchissable. Les enfants de la plaine ne pouvaient plus avancer, ni reculer, ni même attendre. Le vent redoublait, poussant les flammes sur eux. Ils allaient mourir, brûlés vifs. Ils étaient condamnés entre deux murs de feu.